Merci. Donc, le débat que je vais évoquer se déroule au cours du congrès des amicales d'institutrices et d'instituteurs de 1905, qui se tient à Lille. La question de l'enseignement de l'histoire avait déjà été évoquée, abordée, mais assez brièvement, au congrès fondateur des amicales, de la Fédération des amicales en 1900 à Paris. Mais c'est surtout à Lille, en 1905, que ce travail est approfondi. Il faut aussi préciser que c'est un congrès important. Des syndicats ont été constitués dans plusieurs départements durant les mois précédents. Le manifeste des instituteurs syndicalistes paraît en novembre, quelques mois après. Et nombre de syndicalistes impliqués dans les amicales sont délégués au congrès et y jouent un rôle déterminant. Alors deux événements sur lesquels je ne vais pas m'attarder, qui se déroulent l'année précédente, paraissent avoir motivé l'ordre du jour du congrès, dont je rappelle qu'il est soumis à l'approbation du ministre. Les amicales ne sont pas des organisations indépendantes, ce ne sont pas encore des syndicats. En 1904, la première affaire Talamas et l'affaire Gustave Hervé. Alors très brièvement, Talamas avait douté devant ses élèves du lycée Condorcet du caractère miraculeux des voix entendues par Jeanne d'Arc. Et Gustave Hervé, lui aussi professeur d'histoire, est condamné avec Gaston Clémenceau pour avoir publié un manuel d'histoire jugé antipatriote. Alors ces deux événements marquent les instituteurs, même s'ils sont divisés sur l'attitude à adopter. Nombre d'amicalistes désavouent Hervé, mais certains instituteurs syndicalistes, révolutionnaires notamment, lui adressent son soutien et voient dans cette nouvelle excommunication la preuve que l'enseignement est assujetti à une certaine vérité officielle. Que toute autre approche de l'histoire est jugée subversive ou hérétique, et ces instituteurs prennent acte de la nécessité de préparer les générations à venir à l'exercice de la véritable et complète liberté. Alors au cours du congrès qui est préparé par les rapports des amicales départementales, la question se formule pour les instituteurs en général, mais pour les instituteurs syndicalistes en particulier, de la façon suivante. L'enseignement de l'histoire tend à présenter aux enfants la Troisième République comme la réalisation achevée de l'idéal républicain et révolutionnaire. On en fait en quelque sorte l'instrument dogmatique d'un culte républicain. Il symbolise une culture scolaire en quelque sorte assujettie à un objectif d'adaptation politique. La grande question qui sous-tend donc les débats au Congrès de Lille est celle de savoir si l'enseignement de l'histoire consiste en une leçon civique et morale ou si elle doit consister en une leçon d'impartialité critique. Deux acteurs animent et dominent le débat. La première thèse est défendue par Émile Devina, qui est directeur de l'École normale d'Auteuil à Paris et aussi directeur de la revue L'École nouvelle, mais surtout membre du Conseil supérieur de l'instruction publique, et c'est d'ailleurs à ce titre qu'il est membre participant du Congrès. La seconde thèse est soutenue par Pierre Dufresne, syndicaliste, futur co-rédacteur du manifeste des instituteurs syndicalistes, avec Louis Roussel et Émile Gley. Alors au départ du débat, il y a une position de Dufresne, une proposition de définition de l'histoire. L'histoire, c'est pour Dufresne l'étude impartiale du passé pour servir à la connaissance du présent, parce que c'est la connaissance du présent qui importe le plus à la conduite de l'individu dans l'État et du citoyen dans la nation démocratique. On voit donc que la connaissance historique est d'abord posée comme un but en soi, même si elle peut aussi comporter des effets éducatifs, puisqu'elle doit éclairer l'action. Autant les syndicalistes sont rétifs à reconnaître une fonction d'éducation morale à l'enseignement de l'histoire, autant ils s'accordent à lui reconnaître un rôle prépondérant dans la formation d'un citoyen critique, et même d'un peuple critique, à l'égard de l'ordre politique établi. Si l'histoire peut influencer les conduites, si elle a en ce sens une dimension morale, ce n'est jamais pour assujettir les élèves et futurs citoyens à l'ordre politique du moment, du point de vue des instituteurs syndicalistes. En même temps, en insistant sur cette logique de scientificité, Dufresne veut aussi assurer le Congrès et rassurer le Congrès que cette conception de l'enseignement de l'histoire, qui s'écarte évidemment du sentimentalisme patriotique, nationaliste, dominant, ne dissimule en réalité aucune visée subversive, qu'elle n'est sous-tendue par aucune intention politique inavouée. Il propose une autre résolution. Le Congrès est résolu à conserver à l'enseignement de l'histoire un caractère scientifique, c'est-à-dire à éviter de faire servir cet enseignement systématiquement à la construction d'un idéal social et à la culture des sentiments. La formulation proposée par Dufresne, en paraissant renvoyer dos à dos éducation conservatrice et éducation subversive, reflète bien son syndicalisme modéré. Précisons qu'au sein du syndicalisme révolutionnaire, les choses ne sont pas aussi claires. On le voit par exemple dans la revue L'École émancipée en 1910, dans un long débat sur la morale que j'ai aussi traité dans ma thèse par ailleurs. Alors, la position de Devina maintenant. Pour le directeur de l'École normale d'Auteuil, l'enseignement de l'histoire sert d'abord l'éducation civique. À l'éducation civique, elle doit développer une culture des sentiments patriotiques chez les enfants. Bon, l'argumentation est un plaidoyer patriotique connu. La paix ne devant pas s'acheter au prix de la sécurité ou de la dignité du pays, l'élève devra apprendre à se donner de tout son cœur, de tout son cœur à sa patrie, qu'il veut énergiquement juste, prospère, glorieuse dans les œuvres de paix, aussi forte par les âmes qu'il est nécessaire à la défense de tous ses droits. Et c'est bien sûr dans l'histoire que l'on doit puiser les modèles de patriotisme pour Devina. Mais la stratégie rhétorique de Devina est subtile et, d'une façon un peu inattendue, la motion qu'il présente est formulée en des termes qui mettent en avant des arguments analogues à ceux de Dufresne sur la question de l'impartialité. Sa motion commence comme ça. L'enseignement de l'histoire ne doit servir que la vérité. En faisant connaître impartialement l'évolution du passé, il fait comprendre le présent, il donne l'habitude de l'esprit critique, mais Devina ajoute tout de suite, il éclaire et fortifie les sentiments patriotiques. Bon, alors, au cours des travaux de la commission, avant la plénière, 10 autres définitions sont proposées. Un peu désemparée, la commission adopte une proposition un peu intermédiaire qui évoque tour à tour un enseignement démocratique, critique, pratique, libre-penseur, à la fois patriote et pacifiste, c'est-à-dire profondément humain, selon la conception révolutionnaire de 1792. On peut penser que le républicanisme moyen des délégués au Congrès, d'une majorité de ces délégués, des membres de la commission en tout cas, se retrouve dans cette résolution qui conjugue des termes consensuels et des formules de compromis. Deux idées paraissent dominer. Premièrement, il faut historiquement arrimer la Troisième République à la Révolution, à l'héritage révolutionnaire. Et deuxièmement, le peuple doit être désormais considéré comme l'agent principal, le principal acteur, le pivot de toute l'histoire. Mais on s'aperçoit vite, durant les débats, que la formule consensuelle d'un enseignement à la fois patriote et pacifiste ne résiste pas à la discussion, notamment sur les programmes. Alors je n'en donne qu'un exemple, sur la question du traitement des guerres. Devina déplore que le rapport de la commission qui traite du Premier Empire n'accorde qu'une leçon sur quatre à l'histoire militaire, alors que, selon lui, la guerre paraît ce qui occupe le plus les esprits et les cœurs à l'époque. À quoi Gaston Clémenceau, co-auteur avec Hervé du Manuel Condamné, rétorque que l'histoire militaire doit être réduite au strict indispensable et qu'il faut préférer, je cite, « l'histoire de la condition des masses, des institutions, du progrès matériel et moral, en un mot, l'histoire de la civilisation ». Alors tout le débat est relancé en plénière, où le rapporteur résume assez bien la question. Soit l'histoire doit être avant tout une école de morale et de civisme, soit l'histoire est une chose, la morale en est une autre. Dufresne s'attache à montrer, reprenant le débat, que les deux positions sont absolument inconciliables, contrairement à la stratégie de Devina qui tend à vouloir les concilier. Pourquoi ? Pour Dufresne, on ne peut pas à la fois définir l'histoire comme une science et lui donner comme objet de former l'homme et le citoyen, puisque la science, qui est un exposé impartial des faits, je cite, « ne conclut pas ». Ce qui ne signifie pas pour Dufresne qu'un exposé impartial des faits ne puisse avoir de valeur éducative, et il soutient même que c'est cette impartialité qui lui donne sa force éducative. Alors, c'est un moment important de la controverse parce que cet argument vise aussi à réfuter la résolution adoptée en commission qui faisait de la révolution l'origine, le fondement et même le cadre de l'idéal politique républicain et de l'enseignement républicain. Au fond, ce que les syndicalistes refusent, c'est que l'histoire de la République soit en quelque sorte refermée sur cette origine fondatrice, la révolution. Et Dufresne explique que les principes de la Révolution française ne doivent pas être considérés comme une chose absolue, je cite, un aboutissant, une conclusion de l'histoire. Ils ne sont qu'une conclusion provisoire toujours modifiable, et c'est vers un but plus haut, vers un idéal plus parfait qu'il nous faut nous élever et tendre, dit Dufresne. Et c'est à cette fin, et peut-être y a-t-il là un paradoxe, que l'instituteur doit à l'enfant, je cite, la vérité pleine et entière, la vérité sereine et impassible, alors qu'un maître qui se tient en dehors du principe d'impartialité se présente devant un être jeune, ignorant et malhabile, avec son autorité de personne âgée et instruite, et évidemment lui insinue ses idées. Et c'est ce que nous ne voulons pas, dit Dufresne. Alors, le système de défense de Devina ne consiste pas à esquiver l'objection d'endoctrinement moral. Au contraire, Devina explique qu'une étude scientifique et impartiale de l'histoire pourrait certes convenir à l'enseignement supérieur pour des étudiants qui apprennent à constituer l'histoire avec esprit critique, mais qu'elle ne convient pas pour des enfants de 7 à 12 ans. D'abord, par manque de temps, l'école primaire ne peut cultiver qu'imparfaitement la raison de l'enfant, je cite, et ensuite parce que les enfants sont des êtres d'imagination et de sentiments autant et plus que de raison. Devina ajoute qu'un enseignement impartial serait très abstrait, et c'est une façon d'ailleurs de puiser dans le registre argumentatif des instituteurs syndicalistes qui fréquemment dénoncent l'abstraction de l'enseignement dans le reste de l'école. Alors c'est à partir de cette double caractérisation des facultés de l'élève, limite imposée au pouvoir de sa raison d'une part, affirmation de sa sensibilité proprement enfantine d'autre part, que Devina déduit la légitimité et la nécessité d'une influence morale des maîtres sur les élèves dans le cadre de l'enseignement de l'histoire. Je cite Devina, « La première besogne du maître est de mettre dans l'esprit de l'enfant un certain nombre de vérités essentielles, fondamentales, et dans son cœur un certain nombre de sentiments indispensables. » Et il ajoute qu'il ne s'agit pas là de se soustraire aux exigences d'impartialité et de faire servir la vérité en l'altérant plus ou moins à des conclusions intéressées. Au fond, pour Devina, ce n'est pas parce qu'on se sert d'exemples pris dans la réalité historique pour en tirer des conclusions morales que pour autant on trahit les exigences scientifiques de l'histoire. Au contraire, dit Devina, on apprend à l'enfant à juger raisonnablement. Alors que Dufresne, le syndicaliste, avait avoué préférer que l'enfant juge selon une idée fausse mais bien à lui, plutôt qu'il ne répète les jugements du maître, Devina décide finalement d'assumer l'idée qu'une forme de directivité morale incombe au maître à travers l'enseignement de l'histoire. Et pour lui, c'est l'honnêteté du maître qui permet de préserver la vérité historique et de développer une culture chez l'enfant de ses sentiments patriotiques, civiques et moraux afin qu'il se conduise comme un bon citoyen, je cite. Alors, plusieurs interventions tendent à montrer les dangers de l'impartialité, du côté amicaliste, hein. Le délégué de l'Union pédagogique du Rhône, qui est très antisyndicaliste, Perron, dit « Nul ne saurait rester indifférent devant les grands événements de l'histoire ». Il donne un exemple, la révocation de l'édit de Nantes. Si on l'explique par un contexte d'intolérance et de fanatisme, c'est bien une manière de faire comprendre que cette décision politique peut légitimement être réprouvée, dit Perron. Inversement, autre exemple, à montrer les armées de Napoléon promenant leurs étendards à travers l'Europe, on pourrait craindre, si on s'en tient à une description objective et littérale, que l'enfant, frappé par ce qui est fort et ce qui est brillant, ne le porte à admirer ses armées et l'homme qui les conduisait plutôt qu'à les juger sainement. Donc, dans les deux cas, une histoire limitée à la reconstitution objective du passé ferait courir le risque de cultiver dans l'enfance des habitudes d'irréflexion, de généralisation trop hâtive et par suite de jugements irraisonnés. Je cite toujours. En fait, la thèse est toujours la même. Hein. Les faits historiques sont imprégnés de moralité, dit Perron. C'est donc en vain que l'on cherchera à placer l'histoire, la morale, l'instruction civique dans des compartiments étanches et impénétrables. En somme, si on doit résumer la position de Perron, il faut émouvoir l'enfant pour l'aider ou lui apprendre à raisonner. Perron pointe même le danger d'une éducation impartiale sur l'avenir de la République. Il soutient que l'idéal républicain lui-même pourrait être mis en péril par l'exposition impassible et sereine, je cite, des faits historiques, parce qu'elle vulnérabilise l'enfant dans un contexte où l'enseignement laïque est confronté à des idéologies concurrentes. Alors je cite le passage. « Quand l'enfant sera sorti de vos mains, » il s'adresse aux syndicalistes, quand il subira l'influence d'un milieu ignorant ou des patronages cléricaux, quand on s'efforcera de lui inculquer des sentiments que vous réprouvez, pourrez-vous vous estimer satisfait d'avoir fait la part belle à vos adversaires en adoptant et en propageant une méthode plus neuve peut-être que les autres, mais qui ouvre un redoutable inconnu sur l'avenir? En somme, l'argument un peu allusif est le suivant. Si vous n'éduquez pas aux sentiments républicains, vous hypothéquez l'avenir de la République. Au fond, l'amicaliste prend à partie le syndicaliste sur ses titres républicains, parce qu'une pédagogie impartiale pourrait signifier que l'institution scolaire baisse la garde devant les ennemis de la République, en instaurant une sorte de relativisme. Alors, à travers cet argument, je le dis rapidement, on reconnaît bien une certaine fonction de l'anticléricalisme, resserrer les rangs autour d'un républicalisme loyal à l'égard de l'ordre établi. Refuser de voir l'enseignement participer à l'inculcation morale et à la glorification de la République, c'est la mettre en péril, et c'est s'abandonner à un aventurisme politique coupable. On voit que l'anticléricalisme peut être mobilisé afin de contrer d'autres visées d'émancipation politique, socialiste par exemple. Alors Dufresne estime au contraire qu'un exposé impartial peut prévenir les sentiments belliqueux. Concernant Napoléon, il suffit, explique-t-il, de dépasser la présentation habituelle de l'empereur sur son cheval blanc entouré d'un brillant état-major et aller jusqu'à raconter les pillages, les sacs des villes, les boucheries sanglantes qui ont accompagné cet événement. Autrement dit, l'exposition simple et impartiale des faits, à condition toutefois qu'elle satisfasse à une certaine exhaustivité, suffirait à éclairer le jugement de l'enfant. Alors, on doit aussi remarquer un subtil renversement argumentatif concernant le recours au thème de l'immaturité de l'enfant dans ce débat. Du côté de l'histoire éducative et moralisatrice, l'immaturité de l'enfant est invoquée pour justifier le fait que le maître doit aider l'enfant à exercer son jugement. Mais du côté de l'histoire impartiale, c'est cette même immaturité de l'enfant qui est un motif de neutralisation de l'intervention du maître. Il y a là, évidemment, il y a un paradoxe. Dans le premier cas, la formation de la conscience historique est conçue comme une sorte d'acculturation morale. Dans le deuxième cas, elle est plutôt comprise comme un processus de maturation intellectuelle et culturelle, l'instruction en somme, qu'il ne s'agit pas d'orienter moralement ni politiquement. Bon, ces deux positions reposent donc implicitement sur deux conceptions de l'enfance. Alors, je vais rapidement... Bon, non mais il me reste beaucoup de choses à dire après. Je passe brièvement sur l'anecdote qui concerne Clémenceau. Bon, Clémenceau, qui avait été condamné pour avoir rédigé ce manuel dit antipatriote, se rallie à la thèse de l'impartialité. J'ai été condamné au nom de la neutralité, mais je viens ici défendre la neutralité. Je veux que le maître se contente d'exposer les faits sans les juger. L'enfant peut attendre pour formuler des appréciations, que sa conscience soit formée et suffisamment développée. Un propos qui sera salué par Ferdinand Buisson quelques années plus tard, en 1908, dans un très important article de la Revue Bleue sur la crise scolaire, où sans mentionner Clémenceau, Buisson dit « Un instituteur blâmé pour avoir fait de l'histoire socialiste consent à accepter le blâme, pourvu qu'on l'applique de même à tout enseignement historique tendancieux, en quelque sens que ce soit la neutralité pour tous ou pour personne. Si l'on admet aux uns de faire l'éloge de tiers, il faut admettre aux autres celui de la commune. Que tous s'abstiennent, c'est un système logique et c'est même le seul honnête. » Alors, ça ne veut pas dire que Buisson se rallie à la thèse de l'impartialité, loin de là. Il estime au contraire préjudiciable et à la dignité de la personne du maître et à l'autorité de son enseignement. Et d'ailleurs, Buisson écrit en mai 1908, toujours dans ce contexte, et là c'est le contexte de la deuxième affaire d'Emmanuel, liée aussi à la deuxième affaire Talamas, bon je passe là-dessus rapidement, Buisson écrit en mai 1908, « Si le maître était vraiment neutre, c'est qu'il serait nul. Si ne l'étant pas, il veut le paraître, il joue une comédie dont personne ne sera dupe, le maître n'est quelque chose que s'il est quelqu'un. » Je souligne au passage que c'est quelques mois plus tard, en octobre 1908, que Jaurès utilise cette formule célèbre « Il n'y a que le néant qui soit neutre », formule à l'évidence intimement liée au propos de Buisson, mais beaucoup plus célèbre que le propos de Buisson. Bon, finalement, c'est la résolution de Pierre Dufresne, qui peut-être de manière un peu inattendue est adoptée par le Congrès. Il est difficile d'interpréter ce vote. Aucun délégué ne peut ignorer l'engagement syndical de Dufresne, même s'il n'est pas syndicaliste révolutionnaire, hein. Il est syndicaliste modéré. On ne peut pas supposer que la majorité des délégués soient ralliés au syndicalisme et à ses modes d'action. Pour autant, il est probable que les délégués ont perçu la position de Dufresne aussi comme symbolique des revendications d'émancipation de l'instituteur, c'est-à-dire que la recherche d'une impartialité, quelle qu'hypothétique ou contestable qu'elle puisse être par ailleurs, confirme en un certain sens l'état d'esprit d'une corporation qui ne se satisfait plus d'être désignée comme un rouage de la doctrine officielle. Alors dans un deuxième temps, je vais voir Comment cette résolution, ces résolutions du Congrès ont été reçues et commentées? Alors un mot d'abord sur le commentaire de Buisson lui-même, qui assiste au Congrès, je rappelle, en tant qu'invité, membre invité, représentant la Ligue de l'enseignement. Il assiste à tous ces grands congrès de la première décennie du XXe siècle. Je cite, « Ces débats, notamment ceux relatifs à l'enseignement de l'histoire, sont au nombre des plus belles, des plus sérieuses, des plus nobles discussions de pédagogie et de philosophie que depuis longtemps il m'ait été donné d'entendre. Le tournoi, en commission d'abord, puis en séance plénière, entre les partisans de l'histoire à tendance fortement éducative et ceux de l'histoire impartiale, vaudrait d'être résumé à l'usage de tous les amis de l'éducation. Il ferait honneur, ainsi que le vote qu'il a conclu, à n'importe quelle assemblée délibérante. » Je voudrais surtout maintenant examiner comment ces résolutions du Congrès font l'objet d'une tentative de réfutation ministérielle officieuse venant du directeur de l'enseignement primaire en exercice, cette fois Amédée Gasquet, celui qui couvre tous les grands congrès de la période, moins connu que l'ancien directeur Ferdinand Buisson. Précisons qu'Amédée Gasquet est lui-même historien, il a été professeur à la faculté des lettres de Clermont-Ferrand, et bon, dans son discours de clôture du congrès, puisqu'il représente le ministre au congrès, Gasquet déclare « Nous sommes tous d'accord sur ce point que l'histoire doit être impartiale. » Qu'elle doit s'inspirer uniquement de la vérité, qu'elle doit être abordée avec toutes les garanties que demande aujourd'hui la science historique. Mais il ajoute aussitôt, en réalité, il est très difficile dans l'appréciation des faits de garder cette impartialité. C'est pourquoi il est indispensable que le maître se surveille, qu'il donne à sa pensée l'expression la plus adoucie, qu'il se garde de heurter de front des croyances et des opinions qui sont respectables. Donc, à l'issue du congrès, Gasquet paraît ménager les différentes positions exprimées durant ce congrès, en tout cas ne pas attaquer frontalement les résolutions adoptées. Mais il y revient quelques mois plus tard à l'occasion d'une conférence faite aux élèves maîtres, et ce n'est pas par hasard, à l'école normale d'Auteuil, dont Devina est le directeur, en novembre ou décembre 1905, et qui sera publiée en février 1906 dans la revue pédagogique. Bien que cette conférence ne fasse à aucun moment référence explicitement au Congrès, elle est entièrement consacrée à commenter et à réfuter ces résolutions. Il convient d'être très modeste, explique Gasquet, quand on parle de n'enseigner que la vérité absolue. Il en va de même de la prétention ambitieuse d'enseigner à l'école primaire l'histoire comme une science. D'abord parce qu'on peut douter que l'histoire soit une science, dit Gasquet, et aussi, et c'est un point sur lequel les syndicalistes reviendront après, parce que la multiplication des observations, l'examen des témoignages demanderait un travail trop important, des années d'analyse pour une heure de synthèse, dit Gasquet. Et Gasquet conclut par une prudente mais explicite mise en garde à l'encontre des ambitions scientifiques affichées par la majorité des instituteurs délégués au Congrès de Lille, et s'adressant aussi aux élèves maîtres parisiens, « Cet aperçu doit suffire pour vous convaincre que l'histoire scientifique ne peut convenir aux instituteurs. » Loin de moi la pensée qu'un primaire ne soit capable de traiter scientifiquement un sujet historique, mais alors il fait œuvre individuelle d'historien, il n'enseigne pas l'histoire à des enfants. Autrement dit, si le maître ne peut faire œuvre d'historien dans le cadre de son enseignement, on peut évidemment a fortiori imaginer que mettre l'élève en situation de recherche soit complètement impossible. Ordre de la découverte et ordre de l'exposition doivent être clairement distingués. Et donc, Gasquet insiste sur le savoir comme résultat et non comme processus, et il préconise une méthode fondée sur une exposition du savoir qui exclut tout recours à des documents. Alors, vous connaissez mieux que moi les instructions officielles de l'époque, je n'ai pas fait le rapprochement. Voici ce que dit Gasquet. « Il vous suffit de connaître par de bons livres les résultats de la science et de les mettre à la portée de vos auditeurs en les simplifiant au mieux. Vous les conduirez ainsi directement au but sans les faire passer par tous les chemins et sentiers que l'historien a dû suivre et dont l'âpreté et la longueur les eussent rebutés. » Gasquet revient aussi sur la controverse sur l'impartialité. Et en se démarquant du propos explicite de son discours de clôture au Congrès, il s'étonne de ces recommandations, je cite, « au moins bizarres données au maître de n'exposer à l'enfant que des faits, de pratiquer dans l'exposition historique une neutralité rigoureuse, de ne jamais prendre parti. N'est-ce pas, demande-t-il, être dupe des mots et heurter le bon sens sous prétexte de respecter la conscience de l'enfant ?» Alors évidemment, Gasquet accorde qu'on ne doit pas porter dans l'exposé des faits l'écho des passions et controverses contemporaines, ni prêter aux hommes d'autrefois les idées et les sentiments des hommes d'aujourd'hui. Mais il ajoute, je cite, « Ce n'est pas une raison pour enseigner les faits avec un parfait détachement de soi. On n'enseigne pas l'histoire comme la géométrie ou le système métrique. À vous, nous recommandons avant tout d'être intéressants et vivants, Comment l'être sans donner quelque chose de soi-même ? La vie seule communique la vie, l'émotion seule entraîne l'émotion, tout l'effort du professeur doit tendre à créer cette contagion. Alors cette exhortation à mettre le sentiment au cœur du savoir historique de l'élève, ce long réquisitoire en même temps inavoué contre les résolutions du Congrès de Lille, aboutissent à la formulation suivante. Encore moins peut-on souscrire à l'interdiction pour le maître de tirer de l'histoire des leçons de morale et de civisme. Laissez, nous dit-on, les faits parler d'eux-mêmes. La morale et le civisme sont réservés à des programmes distincts, point de mélange et de confusion des genres. Je me refuse pour ma part à ce respect superstitieux et étroit des programmes, dit Gasquet. Et évidemment, pour Gasquet, on ne devrait pas négliger l'admirable répertoire d'actions héroïques qu'est l'histoire de France, quand il faut au contraire inculquer à des âmes neuves l'amour de la patrie et de la liberté. Alors je passe sur de longs débats, enfin un débat suscité par un incident, c'est l'irruption d'Émile Bocquillon dans le congrès en tant que journaliste. Bon, Bocquillon avait fait paraître un livre qui s'appelait la crise du patriotisme. Je passe là-dessus parce que je n'ai pas le temps de le développer, et ça oblige le congrès à se positionner sur la question du patriotisme. Alors, pendant plusieurs semaines, la revue de l'enseignement primaire va connaître une nouvelle fièvre, évidemment, suite à ces propos de Gasquet. Clémenceau, Dufresne, Devinat interviennent de nouveau à plusieurs reprises, mais je ne développe pas l'ensemble de la polémique. Je voudrais brièvement évoquer les analyses, pour finir, de certains syndicalistes révolutionnaires qui, un peu dubitatifs sur l'idée d'un enseignement impartial, vont quand même tenter, et qui ne se contentent pas de dénoncer un enseignement destiné à glorifier les idées républicaines, vont quand même tenter de donner corps à cette recherche d'un enseignement impartial et critique sur le plan pédagogique. C'est dans ce contexte, et surtout dans ce contexte qui a été rappelé ce matin, où dans les années 1910-1911 notamment, on préconise de prendre en compte le milieu local. Alors, on voit par exemple Marius Tortillet, qui écrit de son nom de plume M.T. Lorrain dans l'école émancipée, dès 1910, un article sur l'enseignement de l'histoire où Lorrain explique cette inévitable déformation des faits historiques à l'école primaire. Celle-ci serait produite par la tentative de fournir des explications causales à des enfants qui ne sont pas en mesure de les comprendre. Au fond, l'argument est à la fois psychologique et moral. Je cite Lorrain. L'enfant ne se représente pas le fait historique. Tout se transforme donc pour lui en légende, en épisode qui charme l'imagination. C'est-à-dire qu'au fond, le dogmatisme de la science historique à l'école, il résulte évidemment d'une volonté d'édifier des consciences républicaines, mais il résulte aussi d'une simple erreur pédagogique, dit Lorrain, d'un système d'éducation qui ne tient pas compte, je cite, suffisamment de la nature de l'enfant. Alors il propose ce qu'il appelle un enseignement intuitif de l'histoire, qui reposerait sur l'observation et l'expérience immédiate des enfants, je cite, la sensation et la perception matérielle, l'observation pratique, la vie même complexe et concrète, doivent donc fournir le cadre de l'histoire à l'école pour Lorrain. Dans le bulletin de l'amicale primaire de l'Ain, il décrit très concrètement le sens de cette démarche, en prise sur la vie locale. À travers les documents régionaux, communaux et privés, nous saisirons la vie mouvante de notre humanité. À chaque instant, nous serions appelés à réformer une opinion, à contrôler une information et à discuter des faits. L'histoire deviendra vraiment pour nous scientifique et vivante. Nous poursuivons davantage la formation d'esprits curieux et avisés que celle d'érudits dont les connaissances s'effritent si vite. Autrement dit, pour conclure, les difficultés à l'enseignement de l'histoire, les controverses auxquelles il donne lieu durant cette période, sont la preuve pour Lorrain que cet enseignement connaît à l'école une crise en quelque sorte structurelle. Car dans l'enseignement de l'histoire, toutes les tensions concernent au fond les formes de justification du modèle républicain tel qu'il a été mis en œuvre par la Troisième République. Et je conclurai là-dessus. D'un côté, on considère que l'histoire doit présenter et rendre intelligible aux élèves les étapes qui ont permis la réalisation de la société politique dans laquelle ils vivent, et de justifier la forme prise par la République à la fin du XIXe siècle, comme le point d'aboutissement d'un processus historique. Mais d'un autre côté, on estime que l'idéal républicain n'est pas incarné par la République présente, et la question se pose dès lors de savoir quel enseignement historique et critique peut préparer le futur citoyen aux situations sociales et politiques au sein desquelles il devra se déterminer en tant qu'acteur de l'histoire en train de se faire, Et c'est la question que se pose l'instituteur syndicaliste, qui conçoit le sens de sa mission à partir de cette conviction que l'école laïque doit d'une manière ou d'une autre préparer des générations capables de contribuer aux progrès sociaux et de transformer la République. Ce qui est en jeu dans le cas de l'enseignement de l'histoire, au fond, comme dans le cas de l'éducation morale, qui est un autre grand chapitre des controverses de l'époque, c'est la question de savoir comment l'école doit parler de la République aux enfants, comment elle doit la signifier aux enfants, qu'on la considère d'ailleurs à partir de son passé, c'est l'histoire, ou à travers la destination qu'on veut lui donner. Merci.